Depuis près de 3 ans qu'elle était mariée, Angèle avait beaucoup changé. D'apparence plutôt frêle, elle avait des formes pleines qui tendaient l'étoffe du corsage et de la jupe, et le ressaut des hanches et des seins s'exagérait de ce qu'elle serrait son corset tant qu'elle pouvait. Son visage un peu bouffi de jeune paysanne s'était amenuisé, rose sous le blond cendré de ses bandeaux, ondulant sur un front large et blanc, qui opposait leur double courbe aux courbes inverses de l'arc des sourcils, nettement dessinés. Les yeux noisettes, pailletés d'or, avec des zébrures d'un vert aventurin, s'allumaient, dans les moments de joie et de colère, d'un brasillement fauve. La bouche était grande, les lèvres minces et rouges, relevées au coin en pointe de patin, ce qui donnait à son sourire une espièglerie narquoise. D'une coupe pure, le nez apportait dans la physionomie une note de beauté calme, qui contrastait avec la grâce puérile de deux fossettes qui, au moindre prétexte, se mettaient à rire dans les joues. Le cou, souple, un peu long, rendait très mobile ce visage qui avait souvent l'air de se réjouir, comme si la jeune femme croquait quelque chose. De face, il plaisait par sa grâce jeune, son expression boudeuse ou maligne. Le profil semblait appartenir à une autre tête. Le front et le nez se découpaient presque durement. Le triangle de l'œil disparaissait sous les cils. La bouche fendue droite ressemblait à celle d'un chat. C'était la révélation inattendue d'une femme volontaire, inquiétante dans son repos de félin. Avec son imperméable à carreaux noirs et blancs, sa toque de fourrure noire, garnie d'un tour gris, elle avait un petit air décidé qui faisait retourner les officiers dans les rues de Béthune. Elle se tamponnait les joues de poudre de riz, se frictionnait à l'eau de Cologne en cachette. Un jour, elle n'y résista plus. Elle acheta un faux cul. Son mari s'emporta. « Tout le monde en porte, c'est la mode !» Il cria qu'il n'y a pas de mode pour les femmes d'ouvriers. Tout au plus tolérerait-il qu'elle se fabriquât un coussin, avec des loques, mais porter un faux cul monté sur baleine. Elle tint bon. Le matin, elle le mettait sous son peignoir et se regardait dans la glace. En ville, elle s'admirait dans les vitrines. Elle n'osait le porter quand elle allait voir sa mère, chez qui elle retournait de temps en temps, malgré la hargne de ses frères. Édouard refusait chaque fois de l'accompagner. Elle n'insistait pas trop, car il ne lui déplaisait pas de voyager seule. Un jour, en arrivant à Lens, il lui prit la fantaisie de déjeuner à l'hôtel. Le garçon, debout sur le seuil, l'intimidait bien un peu. Enfin, elle lui demanda si on pouvait lui servir à déjeuner. « Certainement, madame. Madame n'a qu'à entrer. » Elle prit place à une longue table où une quinzaine de personnes, hommes et femmes, s'asseyaient. Elle aurait voulu être prise pour une voyageuse venant de loin et, en attendant qu'on servît, se fit apporter l'indicateur. Elle était placée entre deux messieurs qui lisaient leur journal, campés entre l'assiette et le verre. Elle mangeait peu, avec distinction, lorsque soudain le garçon lui tendit un plat d'écrevisses. Elle s'effara. Vite, elle en saisit une par les pinces, la posa sur son assiette et coula un regard de côté pour voir comment son voisin de droite s'y prenait. Il ne finissait pas de lire son journal. Elle boit quelques landes gorgées, se verse un verre d'eau, laisse tomber sa fourchette que cet idiot de voisin de gauche s'empresse de ramasser. L'autre lisait toujours. En face d'elle trônait une pataude de paysanne qui, amusée de ce manège, se mit à crier quand elle fut servie. « Tenez, la petite dame, voici comment on fait. Et je te casse les pinces, les pattes, décortiquant, broyant et suçant, la grosse dondon expédie son écrevisse. » Les convives souriaient, amusés. Angèle, rouge de confusion, chipota la sienne, trouva ses jambes mal élevées et ne respira que lorsqu'elle se leva de table. Son mari refusa toujours de l'emmener dîner, à l'hôtel du Beffroi à Béthune, un dimanche soir. Il se serait trouvé gêné, on n'y mangeait pas à sa faim, il valait mieux dîner dans un petit restaurant, où l'on connaît le patron, où l'on se sert soi-même à table. Puis il aimait peu s'endimancher, et préférait faire la manille avec quelques camarades, en manche de chemise, et vider tranquillement quelques pots de bière. Elle s'aperçut que le patron, un jeune homme d'une trentaine d'années, blond et bedonnant, la regardait beaucoup, et même quand elle sortait du bureau, lui serrait un peu longuement la main. Un jour, il lui offrit sa voiture, afin qu'elle pût faire commodément ses courses dans Béthune. Elle refusa, mais fut tentée. Un mois après, il regretta de lui compter si peu d'argent. Cependant, si elle se trouvait à court, elle n'avait qu'à le lui dire. Il en avancerait. Elle le remercia sèchement, puis dans la rue rit de la mine embarrassée du jeune homme. Elle fut sur le point de raconter la scène à son mari, puis se tut. Plusieurs fois, pendant l'absence du bourrelier, il passa à la maison, s'informant si le logement était en bon état, le charbon de bonne qualité. Il prenait un verre de bière, enviait son ouvrier d'avoir une femme aussi active et aussi gentille. Elle l'écoutait avec un regard aminci et un sourire qui retroussait le coin de ses lèvres. « Vous vous moquez de moi, » disait-il. Un jour qu'elle se rendait à la mine pour attendre son mari et revenir avec lui, sa voiture la rattrapa. Il la fit monter et la déposa sur le carreau de la mine, devant l'atelier de bourrellerie. Édouard ne fut pas content. « Je te défends de monter dans la voiture de ce coureur de femmes. » Elle souffrit de la colère de son mari comme d'une injustice. « S'il savait !» se dit-elle. Elle prit sa revanche quelques semaines plus tard. Le bourrelier, blessé à la main droite, demeura quelques jours à la maison. Pendant que sa femme était partie à Béthune, il reçut la blanchisseuse. Angèle le sut par la fillette qui lavait la maison le samedi. Depuis quelque temps, elle flairait l'intrigue. Se rappelant sa maladresse d'autrefois, elle dissimula, puis le lendemain dit avec indifférence. « Tiens, on n'a pas encore rapporté le linge ?» Il la devina et répondit tranquillement. « La blanchisseuse a passé hier. Elle la portera demain. » Il y eut un silence et ne pouvant se contenir. « Ne te gêne pas ! Ramenez des pots ici ! Je n'ai pas le moyen de les promener en voiture !» Ne trouvant pas de mots pour cracher la rage et la colère qui la faisaient trembler, elle se tut et s'assit. Il se campa devant elle et balançant alternativement comme deux couperets ses larges mains. « Écoute bien, » dit-il, « je n'aime pas les cancans. Si cette lessiveuse te déplaît, elle ne mettra plus les pieds à la maison. Et pour éviter qu'on ne vienne ici pendant ton absence, tu n'iras plus à Béthune. » Elle regardait les mains de son mari, énormes. Il la tuerait d'un coup de poing. Le sentir si fort lui fit plaisir, et elle goûta la joie âcre de se soumettre. De plus en plus, elle prenait en dégoût cette existence de petite ville malpropre et toujours enfumée. Elle ne voisinait pas, trouvant grossières les femmes du quartier. Souvent, quand elle passait dans la rue, les commères, appuyées sur leurs balais, ricanaient en s'interpellant d'un trottoir à l'autre, criant que si la quinzaine était bonne, on pourrait se fourrer de la farine jusqu'aux oreilles, acheter des échasses, mettre une peau de lapin sur sa tête. Une autre clamait, du bout de la rue, qu'elle aimait mieux avoir une tasse de café dans le ventre qu'un oreiller sur le cul. Toutes ces lourdes plaisanteries en patois, bourrées de mots orduriers, alternaient avec des mots de ce rire populacier qui blesse à la manière des coups de trique. Dans la semaine qui suivit la dispute, les commères, au courant par la fillette, se demandaient à tue-tête des nouvelles de la blanchisseuse, si le linge était propre, amidonné, repassé. On remarqua qu'elle n'allait plus à Béthune. On plaignit les gens de la ville, les officiers qui ne pourraient plus s'amuser. L'une déclarait vouloir tâter du métier. Une autre gueulait « Sans sous, je me rhabille !» La jeune fille rageait de se sentir impuissante. En passant, droite, sous l'hostilité et l'injure, elle serrait les dents et les poings, ruminant d'impossibles projets de vengeance, songeant surtout à quitter la ville. Édouard, lui aussi, commençait à s'enlacer. Habitué à travailler à sa guise, à quitter l'établi pour faire un tour de jardin, à causer et à plaisanter avec les clients, il lui était dur de se rendre à l'atelier, de manger et de se reposer à heure fixe. Le dimanche, il s'ennuyait. La manie ne l'attirait plus. Si volontiers il aurait fait une partie de boule ou de billon, il se sentait de mauvaise humeur dans les cabarets où l'on se bat, où des mineurs ivres et des femmes dépoitraillées dansent, cabriolent dans le tumulte d'un orchestre automatique. D'ailleurs, depuis quelque temps, le patron se montrait souvent maussade, parfois sec. Un jour, le bourrelier, qui recevait difficilement un reproche, lui jeta son tablier de cuir à la figure. Angèle l'embrassa quand il lui raconta la scène. « Enfin, on quittait cette ville noire et hostile. Elle avait un projet. Son mari n'irait plus s'embaucher chez un patron. il travaillerait chez lui, comme par le passé. Elle ne voulait plus rester inactive. Qui l'empêcherait de tenir un petit café, puisqu'ils avaient 1 200 francs d'économie? Il hésitait, craignant que ce ne fût là qu'un caprice de femme. Elle fut si pressante qu'il céda. « Où aller ?» Ils ne parlèrent pas de Béthune. Lille, trop grande ville, leur faisait un peu peur. Ils se décidèrent pour Douai.